Question. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, je me sens tellement coupable. Réponse. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Question. La culpabilité est importante. Elle nous indique que nous avons mal agi. Réponse. Il n'y a rien de mal. Il n'y a que ce qui ne te sert pas. Ce qui ne dit pas la vérité à propos de qui tu es et de qui tu choisis d'être. La culpabilité est le sentiment qui te tient englué dans qui tu n'es pas. Question. Mais la culpabilité est le sentiment qui, au moins, nous permet de remarquer que nous nous sommes égarés. Réponse. C'est de la conscience que tu parles et non de la culpabilité. Je te dis ceci. La culpabilité est une plaie. C'est le poison qui tue la plante. Dans la culpabilité, tu ne grandiras pas. Tu ne feras que t'étioler et mourir. La conscience, voilà ce que tu recherches. Mais la conscience n'est pas la culpabilité et l'amour n'est pas la peur. La peur et la culpabilité, je te le redis, sont tes seuls ennemis. L'amour et la conscience sont tes véritables amis. Mais ne les confonds pas, car les unes te tueront tandis que les autres te donneront vie. Question. Alors, je ne dois me sentir coupable de rien ? Réponse. Jamais, au grand jamais. À quoi bon ? Cela te permet seulement de ne pas t'aimer, et cela élimine toutes tes chances de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Question. Et je ne dois avoir peur de rien ? Réponse. La peur et la prudence sont deux choses différentes. Sois prudent, sois conscient, mais ne sois pas craintif, car la peur ne fait que paralyser, tandis que la conscience mobilise. Sois mobilisé et non paralysé. Question. On m'a toujours enseigné à craindre Dieu. Réponse. Je sais. Et depuis lors, tu as été paralysé dans tes relations avec moi. Ce n'est que lorsque tu as cessé de me craindre que tu as pu créer une quelconque relation profonde avec moi. Si je pouvais t'offrir un cadeau, une grâce particulière, qui te permettrait de me trouver, ce serait le courage. Bénis soient les courageux, car ils connaîtront Dieu. Cela signifie que tu dois avoir le courage d'abandonner ce que tu crois savoir à propos de Dieu. Tu dois avoir le courage de t'éloigner de ce que les autres t'ont dit à propos de Dieu. Tu dois avoir le courage et l'audace de faire ta propre expérience de Dieu. Et alors, tu ne dois pas t'en sentir coupable. Lorsque ta propre expérience déroge de ce que tu croyais savoir et de ce que tous les autres t'ont dit à propos de Dieu, tu ne dois pas t'en sentir coupable. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de Dieu. Question. Mais certains disent que suivre ta suggestion, c'est pactiser avec le diable. Que seul le diable suggérerait une telle chose. Réponse. Le diable n'existe pas. Question. Voilà aussi une chose que le diable dirait. Réponse. Le diable dirait tout ce que dit Dieu, est-ce bien cela ? Question. Il le dirait d'une façon plus habile, c'est tout. Réponse. Le diable est plus habile que Dieu. Question. Plus rusé, disons. Réponse. Ainsi, le diable manigance en disant ce que Dieu dirait. Question. Avec juste une petite distorsion, juste assez grande pour induire quelqu'un en erreur, pour le faire s'égarer. Réponse. Je crois que nous avons quelques mots à nous dire à propos du diable. Question. Eh bien, nous en avons beaucoup parlé dans le tome 1. Réponse. Pas assez, semble-t-il. Et puis, il y en a peut-être qui n'ont pas lu le tome 1, ni le tome 2 d'ailleurs. Alors je crois qu'on pourrait commencer par résumer quelques-unes des vérités qui se trouvent dans ces livres. Cela préparera le terrain pour introduire les vérités plus grandes, universelles, de ce troisième livre. Et avant cela, nous reparlerons aussi du diable. Je veux que tu saches comment et pourquoi une telle entité a été inventée. Question. D'accord, tu gagnes. Je suis déjà dans le dialogue. Apparemment, ça va donc continuer. Mais il faut dire une chose au lecteur avant d'entamer cette troisième conversation. Il s'est écoulé 6 mois depuis que j'ai écrit ces premiers mots. Nous sommes le 25 novembre 1994, le lendemain de l'action de grâce. Il a fallu 25 semaines pour arriver ici. 25 semaines entre le dernier paragraphe et celui-ci. Il s'est passé bien des choses au cours de ces 25 semaines. Sauf que ce livre n'a pas progressé d'un pouce. Pourquoi est-ce si long ? Réponse. Vois-tu de quelle façon tu peux te mettre en échec ? Vois-tu de quelle façon tu peux te saboter ? Vois-tu de quelle façon tu peux t'arrêter en chemin au moment même où tu arrives à quelque chose de bon. Tu as fait cela toute ta vie. Question. Hey, minute, ce n'est pas moi qui ai empêché ce projet d'évoluer. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas écrire un seul mot, à moins de m'y sentir pousser, à moins de sentir. Je déteste ce mot, mais j'imagine qu'il me faut assez d'inspiration pour prendre ce bloc-notes jaune et continuer. Et l'inspiration, c'est ton rayon, pas le mien. Réponse. Je vois. Alors, tu crois que c'est moi qui ai traîné et pas toi? Question. Quelque chose comme ça, oui. Réponse. Mon merveilleux ami, ça te ressemble tellement, à toi et à d'autres humains. Tu restes à ne rien faire pendant 6 mois, à ne rien faire à propos de ton bien le plus élevé, à le repousser, en fait. Puis tu blâmes quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à toi parce que tu n'aboutis nulle part. Décèles-tu un pattern? Question. Eh bien, réponse. Je te dis ceci. Il n'y a pas un seul instant pendant lequel je ne suis pas avec toi. Jamais un moment où je ne suis pas prêt. Ne t'ai-je pas dit déjà cela? Question. Eh bien, oui, mais... Réponse. Je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Mais je ne t'imposerai jamais ma volonté. Je choisis ce qui est, pour toi, le plus grand bien, mais aussi ce que tu veux te donner. Et c'est la mesure la plus certaine de l'amour. Lorsque je veux pour toi ce que tu veux te donner, alors je t'aime vraiment. Lorsque je veux pour toi ce que je veux pour toi, alors je m'aime à travers toi. Ainsi, à la même aune, tu pourras déterminer si les autres t'aiment et si tu les aimes vraiment. Car l'amoureux ne choisit rien pour lui-même. Il ne cherche qu'à rendre possible les choix du bien-aimé. Question. Cela semble tout à fait contredire ce que tu as affirmé dans le tome 1, à savoir que l'amoureux ne se préoccupe pas du tout de ce que l'autre est, fait et a, mais seulement de ce que le soi est, fait et a. Cela soulève également d'autres questions comme « Que dire du parent qui crie à l'enfant « Sors de la rue !» ou, mieux encore, qui risque sa propre vie pour s'élancer dans le tourbillon de la circulation et saisir l'enfant ? Que dire de cette mère ? Est-ce qu'elle n'aime pas son enfant ? Pourtant, elle lui impose sa volonté. Rappelle-toi, l'enfant se trouvait dans la rue parce qu'il voulait y être. Comment expliques-tu ces contradictions? Réponse. Il n'y en a aucune, mais tu ne peux pas voir l'harmonie. Et tu ne comprendras cette divine doctrine de l'amour que lorsque tu auras compris que mon choix le plus élevé, en ce qui me concerne, est également ton choix le plus élevé en ce qui te concerne. Et c'est parce que toi et moi ne faisons qu'un. Vois-tu? La divine doctrine est aussi une divine dichotomie, et c'est parce que la vie même est une dichotomie, une expérience au sein de laquelle deux vérités apparemment contradictoires peuvent coexister en un même lieu et en même temps. Dans ce cas-ci, les vérités en apparence contradictoires sont les suivantes. Toi et moi sommes séparés, et toi et moi ne faisons qu'un. La même contradiction apparente se manifeste dans ta relation avec tout le reste. Je maintiens ce que j'ai dit dans le tome 1. La plus grave erreur dans les relations humaines consiste à se soucier de ce que l'autre veut, est, fait ou a. Ne vous souciez que du soi. Qu'est-ce que le soi est, fait ou a? Qu'est-ce que le soi veut, nécessite, choisit? Quel est le choix le plus élevé pour le soi? Je maintiens également une autre affirmation faite dans ce livre. Le choix le plus élevé pour le soi devient le choix le plus élevé pour un autre lorsque le soi réalise qu'il n'y a personne d'autre. Par conséquent, l'erreur n'est pas de choisir ce qu'il y a de mieux pour toi, mais plutôt de ne pas savoir ce qu'il y a de mieux. Cela provient du fait que tu ne sais pas qui tu es vraiment, encore moins qui tu cherches à être. Question. Je ne comprends pas. Réponse. Eh bien, permets-moi de te donner un exemple. Si tu cherches à remporter l'Indianapolis 500, conduire à 240 km/h est peut-être ce qu'il y a de mieux pour toi. Par contre, si tu veux arriver à l'épicerie en sécurité, ce n'est peut-être pas le cas. Question. Tu dis que tout est affaire de contexte? Réponse. Oui, toute la vie. Ce qu'il y a de mieux dépend de qui tu es et qui tu cherches à être. Tu ne peux pas choisir intelligemment ce qu'il y a de mieux pour toi à moins de décider de la même manière qui tu es et ce que tu es. En tant que Dieu, je sais ce que j'essaie d'être. Par conséquent, je sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Question. Et qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce qu'il y a de mieux pour Dieu. Ce devrait être intéressant. Réponse. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de te donner ce qu'il y a de mieux pour toi, selon toi. Car ce que je tente d'être, c'est l'expression de moi-même. Et c'est par ton intermédiaire que je le suis. Me suis-tu? Question. Oui, crois-le ou non, je te suis. Réponse. Bien. À présent, je te dirai quelque chose que tu trouveras peut-être difficile à croire. Je t'accorde toujours ce qu'il y a de mieux pour toi, même si j'admets que tu ne le sais peut-être pas toujours. Ce mystère se dissipe quelque peu, maintenant que tu as commencé à comprendre où je veux en venir. Je suis Dieu, je suis la déesse, je suis l'être suprême, le tout de chaque chose, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Je suis la somme et la substance, la question et la réponse, le haut et le bas, la gauche et la droite, l'ici et le maintenant, l'avant et l'après. Je suis la lumière et je suis l'obscurité qui crée la lumière et la rend possible. Je suis la bonté infinie et la méchanceté qui fait que la bonté est bonne. Je suis toutes ces choses, le tout de chaque chose, et je ne peux faire l'expérience d'aucune partie de moi-même sans faire l'expérience de tout moi-même. Voilà ce que tu ne comprends pas à mon sujet. Tu veux faire de moi l'un et non l'autre, le haut et non le bas, le bon et non le mauvais. Mais en niant la moitié de moi, tu nies la moitié de ton soi. Ce faisant, tu ne peux jamais être qui tu es vraiment. Je suis le tout magnifique, et ce que je cherche, c'est de me connaître d'une façon expérientielle. Je fais cela à travers toi et à travers tout ce qui existe, et je fais l'expérience de moi-même comme d'un être magnifique par les choix que je fais. Car chaque choix crée le soi. Chaque choix est définitif. Chaque choix me représente, c'est-à-dire qu'il me représente, comme étant qui je choisis d'être maintenant. Je ne peux pas choisir d'être magnifique si je n'ai aucun choix. Il faut qu'une partie de moi soit moins magnifique pour que je choisisse la partie de moi qui est magnifique. Il en va de même pour toi. Je suis Dieu plongé dans l'acte de création de moi-même. Et il en va ainsi pour toi. C'est ce que ton âme se languit de faire. C'est ce dont ton âme a faim. Si je t'empêchais d'avoir ce que tu choisis, je m'empêcherais moi-même d'avoir ce que je choisis. Car mon plus grand désir est de faire l'expérience de moi-même en tant que ce que je suis. Et comme je l'ai soigneusement et méticuleusement expliqué dans le tome 1, je ne peux le faire que dans l'espace de ce que je ne suis pas. Ainsi, j'ai soigneusement créé ce que je ne suis pas, afin de faire l'expérience de ce que je suis. Mais je suis tout ce que je crée. Donc, je suis, en ce sens, ce que je ne suis pas.